Alors, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Pierre-Paul Matheur pour cette conférence sur le collectivisme d'Henri Lafontaine. C'est une conférence qui est organisée avec la Fondation Henri Lafontaine. Donc, Pierre-Paul Matheur est président honoraire du comité de concertation SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Et il est l'auteur de l'introduction qui précède la réédition du texte d'Henri Lafontaine qui s'appelle Le collectivisme. C'est un texte qu'Henri Lafontaine publie de 1893 à 1895 dans le journal La Justice et qu'il réédite en brochure en deux volumes en 1897. Alors vous verrez que c'est un texte qui a des connotations révolutionnaires. Henri Lafontaine l'écrit alors qu'il a 40 ans, plus ou moins. On pourrait croire que c'est une erreur de jeunesse, mais à 48, à 88 ans, il écrit encore « Ma doctrine s'appelle le collectivisme, tout en effet est collectif dans le monde des choses et des idées. » Donc ce n'était pas une erreur de jeunesse. Je laisse la parole à Pierre-Paul Matheur.
Merci beaucoup, Jacques. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais diviser cet exposé en trois parties, très classiquement. Et je vais commencer par vous dire quelques mots sur des questions d'actualité qui se trouvent dans ce livre d'Henri Lafontaine, fin du 19e, questions d'actualité qui sont toujours brûlantes et non résolues à l'heure actuelle. Alors, la première de ces questions d'actualité, c'est que Henri Lafontaine nous dit que le collectivisme doit se développer dans une société riche. Le collectivisme, autrement dit, se nourrit, dit-il, d'abondance. Alors je vais citer une phrase parce que dit que donc le collectivisme doit se nourrir d'abondance. Aujourd'hui, on dirait évidemment de croissance. Et il dit, il écrit que cette croissance, pour parler comme aujourd'hui, est à portée de la main. Je le cite. La terre n'attend plus que la bonne volonté des peuples pour donner avec prodigalité et donner sans épuisement tout ce qui peut aider à satisfaire les besoins les plus exaltés. Alors vous voyez bien que tout l'Anthropocène se trouve dans cette phrase, dans cette quête. Nécessaire de la croissance dans le cadre du collectivisme. Première question d'actualité. Deuxième question d'actualité, vous connaissez le fameux précepte marxiste de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Alors je commence par de chacun selon ses capacités. Pour évidemment vous dire que Henri Lafontaine ne partage pas la croyance libérale selon laquelle la poursuite des intérêts individuels égoïstes au total doit faire le bien de la société. Pas du tout. Henri Lafontaine dit très clairement que l'État doit assurer la corrélation des efforts de toutes et de tous. Et dans ce cadre-là, il remarque que certains labeurs, comme on disait à l'époque, je le cite, que certains labeurs sont délaissés, sont mal considérés, alors qu'ils sont essentiels pour la vie de la société. Et vous voyez là aussi combien on retrouve ce que certains ont cru découvrir au cours de la pandémie, c'est-à-dire que des professions, comme on dit de première ligne, sont effectivement mal considérées, mal payé et dégradé. Et donc Henri Lafontaine dit ceci, bien sûr, il y aura le collectivisme qui fera que ces professions ne seront plus mal considérées, mais il dit, si nécessaire, eh bien, il faudra effectivement imposer une espèce de service civil à tous pour que ces professions, notamment l'hygiène et la voirie, soient remplies pour la société. Alors, troisième question d'actualité, c'est alors dans le cadre de à chacun selon ses besoins. Bien sûr, Lafontaine est convaincu que dans le cadre du collectivisme, il faut évidemment libérer tout le monde de l'angoisse du revenu. Et vous savez combien, au 19e siècle, la classe ouvrière connaît une misère scandaleuse. Il faut donc libérer tout le monde de l'angoisse du revenu, et nous dit La Fontaine, pour ce faire, nous avons un outil particulièrement important qui sont les services publics. Alors, je vais vous lire quelque chose que les néolibéraux actuels feraient bien d'entendre. Voilà, il dit ceci. L'accessibilité des services publics doit être garantie, je cite, au moindre bourg, des contrées écartées, dont les habitants ont, écrit La Fontaine, droit à une vie intégrale. Alors moi qui suis un usager des chemins de fer, je peux vous dire qu'on en est très loin et au contraire, on a fait le chemin inverse. Et pourquoi, dit La Fontaine, ces services publics jouent un rôle tellement essentiel? C'est que ces services vont pouvoir alléger, libérer le salaire de charges énormes, dit La Fontaine. D'autant plus, dit-il, qu'avec la progressivité de l'impôt sur l'ensemble des revenus, encore une autre idée tout à fait actuelle, et les retombées du collectivisme, on pourrait assurer la gratuité de ces impôts. Et en outre, nous dit La Fontaine, avec ces retombées des bénéfices du collectivisme et cette fiscalité, on devrait pouvoir distribuer un revenu universel familial, avant la lettre, à l'ensemble des familles. Ce revenu universel alimenterait la croissance. Et La Fontaine, il est très keynésien avant la lettre dans son petit livre. Effectivement, il affirme très clairement que l'augmentation de la consommation des travailleurs devrait alimenter cette croissance. Mais il ajoute, et c'est bien ce que craignent actuellement les adversaires du revenu universel, il ajoute que ce revenu universel autoriserait, je cite, une légère diminution des salaires pour soutenir la compétitivité du pays. Vous voyez, mesdames, messieurs, chers amis, que tout cela est évidemment tout à fait actuel et qu'on a l'impression, malheureusement, quand on discute de tout cela, qu'on en discute pour la première fois. Alors que, fin du 19e siècle, ces débats étaient déjà tout à fait brûlants dans les cénacles progressistes et socialistes de l'époque. Alors, quatrième question d'actualité, est-ce que le collectivisme, à chacun selon ses besoins, est le partage égal des biens? Henri La Fontaine nous dit non, le collectivisme n'est pas le partage égal des biens. Et dans le cadre du collectivisme, l'inégalité subsiste. Bref, il dit l'inégalité subsiste, oui, mais avec une différence essentielle, c'est que l'inégalité qui subsiste dans le cadre du collectivisme est une inégalité qui découle des différences des mérites entre les différents individus et non plus d'une différence de statut social ou d'exploitation des travailleurs, puisque dans le cadre du collectivisme, et j'y reviendrai, l'exploitation des travailleurs est abolie. Donc, c'est très intéressant parce que cela montre que Henri La Fontaine reste très fort marqué, comme tout la plupart des socialistes d'ailleurs de l'époque, reste très fort marqué par une pensée saint-simonienne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des différences, il peut y avoir des gens plus fortunés les uns que les autres, pour autant que cette fortune ne découle pas d'une situation de naissance ou de rente, mais qu'elle découle des mérites individuels des différents individus. Cela étant, cela pose une question évidemment fondamentale pour le socialisme. Pourquoi? Mais rappelons-nous, les conservateurs, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou libéraux, imputaient la responsabilité de la misère ouvrière aux ouvriers eux-mêmes. Il disait, ils sont misérables parce qu'ils sont immoraux et parce qu'ils sont ignorants. Et les progressistes, qu'ils soient libéraux ou socialistes, disaient non, pas du tout. La misère des travailleurs est due à l'exploitation des travailleurs par le capital. Et donc, en prônant cette orientation saint-simonienne, en prônant cette morale des mérites, qui deviendra plus tard une méritocratie, en prônant cela, est-ce qu'on ne réintroduit pas finalement le ver dans le fruit, dans la pomme de la société, en disant qu'il peut y avoir des différences, pour autant que ces différences découlent des différences des mérites des uns et des autres? Autrement dit, dans cette perspective, ceux qui ont moins que les autres, eh bien, c'est parce qu'ils ont moins de mérite. Donc, on revient sur une imputation de la responsabilité des différences sociales aux victimes même de ces différences sociales. Donc, c'est un élément fondamental, parce que c'est un élément qui perdure tout au long de l'histoire du 19e, du 20e et même du 21e. Alors donc, il faut entendre à chacun selon ses besoins de base, et puis au-delà, à chacun selon ses mérites. Mais alors, cinquième question d'actualité, brûlante celle-là, dans le cadre des fractures écologiques et sociales. Quel besoin s'agit-il de satisfaire pour tout le monde? Qu'est-ce qui vaut donc la peine d'être produit? Et on va, dans le texte d'Henri Lafontaine, basculer tantôt des besoins les plus exaltés, dont je parlais tout à l'heure, qui nécessitent une croissance forte. Et d'autre part, il écrit parfois les besoins légitimes. Mais il ne dit pas quels sont les critères de définition de cette légitimité, ni qui a le pouvoir de vérifier que ces critères sont remplis. Alors, il y a un autre socialiste, un socialiste allemand, Albert Schaeffle, qui est un socialiste qui a beaucoup d'influence en Belgique à l'époque. C'est un penseur très intéressant, il faut lire. Ses livres sont d'ailleurs sur Internet, donc c'est facile d'y avoir accès. Et c'est un penseur très important qui, lui, va apporter une réponse plus complète sur ses besoins. Et je vais vous faire une citation un peu plus longue, parce qu'elle est très intéressante. Alors, que nous dit Albert Schaeffle? Il dit, il est vrai que l'État pourrait radicalement éliminer les besoins qui lui paraîtraient nuisibles en ne produisant plus pour eux. C'est pourquoi, dit Albert Schaeffle, ça va vous faire sourire, les végétariens tendent vers le socialisme. Ce n'est pas une chose mauvaise que d'éloigner du corps social les produits falsifiés et nuisibles. Ça vous dit quelque chose, les néonicotinoïdes, les perturbateurs endocriniens, le glyphosate, etc. Tout ça est très actuel, évidemment. Et il ajoute, pour éviter l'abus dans cette œuvre d'épurement, et entre parenthèses, les fous tempéranciers, il ne faudrait quand même pas qu'on nous enlève le pinard, il n'y aurait qu'à s'en rapporter au sens puissant et généralement si développé de la liberté individuelle. En somme, dit Schaeffle, il n'y a aucune raison de conclure que la production étant socialement réglée et unitaire, la détermination des besoins doive l'être aussi et que dans cette matière aussi, l'État doive procéder d'office. Il conclut en des termes très libéraux. Il conclut, je cite, si le socialisme voulait abolir la liberté des besoins individuels, il devrait être regardé comme l'ennemi mortel de toute liberté, de toute civilisation, de tout bien-être intellectuel et matériel. Tous les avantages qu'apporte avec lui le socialisme ne compenseraient pas la perte de cette liberté fondamentale. Fin de citation. Et le traducteur de Schaeffle, qui n'est autre que Benoît Malon, très grand socialiste français, qui incarne le socialisme moral, j'y reviendrai tout de suite. Benoît Malon, le traducteur, eh bien, ne peut s'empêcher d'intervenir dans le débat. Et en note de ce texte de Scheffler, il indique qu'il marque totalement son désaccord et qu'entre le socialisme autoritaire et le statu quo, il préfère le premier. Alors, il y a un autre auteur qui, lui aussi, réagit dans ce débat sur les besoins. Il s'agit d'Alfred Nakin. Et Alfred Nakin est, en général, désigné comme un socialiste libéral. En réalité, si vous lisez son livre, qui est également sur Internet, c'est, je crois, sur le site de Cairn qu'on le trouve, ou non, sur le site de la Bibliothèque nationale française. Eh bien, Alfred Nakin est plutôt un libéral socialisant. Et Alfred Nakin bondit à la lecture de cette hypothèse d'Albert Scheffler d'intervention de l'État, et en dépit de la conclusion toute libérale de Scheffler, il qualifie le texte, je cite, « de tout bonnement effrayant ». Et il ajoute « même si le bon sens public faisait justice des sectaires tempéranciers », il souligne, « le despotisme serait absolu ». Donc vous voyez combien cette question des besoins, qui est une question fondamentale à l'heure actuelle, a été au fond globalement évacuée du débat socialiste. Et nous sommes les héritiers de ça. La question « que produire ?», « par qui et comment ?» a toujours été laissée dans les mains des capitalistes. À part une velléité un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, et en Belgique, nous avons encore un bureau du plan, mais ce bureau du plan n'a jamais que très peu planifié. Et donc, on est là dans un débat évidemment essentiel, surtout à l'heure des fractures écologiques qu'on connaît à l'heure actuelle. Une sous-question de ces besoins se fait néanmoins jour, et je pense que c'est ma sixième question d'actualité. Il n'y en aura pas plus, parce que sinon vous n'allez plus acheter le bouquin. Donc, sixième question d'actualité, donc liberté sur le choix, n'est-ce pas, de ce qu'on va consommer, sur le choix des besoins. Mais quand même, on se pose quand même la question de savoir est-ce que le luxe est légitime? Alors, Henri Lafontaine va contourner le problème et va nous dire, vous savez, le luxe qui découle de l'exploitation des travailleurs n'existera plus, puisque dans le collectivisme, il n'y aura plus d'exploitation des travailleurs. Bon, OK. Nakin, une fois de plus, de son côté catégorique, pas question de toucher aux besoins de luxe, et là, il se montre même assez nationaliste, cela mettrait en péril une partie essentielle de l'activité, de l'inventivité, de l'artisanat le plus fin fleuron de l'économie française. Et donc, là, c'est catégorique, non. En revanche, Henri Lafontaine et Albert Scheffler dénoncent très catégoriquement les gaspillages. Et sous l'enseigne des gaspillages, ils placent la publicité. C'est intéressant, ça. Quand on voit ce que coûte la publicité et ce que ça représente en gaspillage. Et la publicité et le nombre trop élevé d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Et enfin, Henri Lafontaine, Albert Scheffler et là aussi Alfred Nakin disent qu'il faut arrêter de produire des armements. Donc voilà six questions d'actualité qui me paraissent justifier la lecture de ce petit opus. Deuxième partie, je voudrais parler quelque peu des inspirations intellectuelles de Henri Lafontaine. Alors, Henri Lafontaine, comme la plupart, je ne sais pas si je peux dire tous, parce que je ne les connais pas tous, mais comme la plupart des socialistes de l'époque, partage l'idée de ce que la société fonctionne comme un organisme biologique vivant. C'est l'organicisme social. La société est donc assimilée à un organisme biologique qui se déploie, qui croît et dont tous les organes participent à la bonne santé et au bien-être. Alors cet organicisme social admet deux variantes. La première variante, c'est une variante réactionnaire. C'est-à-dire que cette variante est développée depuis les ennemis de la Révolution française qui jettent des regards éperdus, des regards nostalgiques et qui veulent revenir à une société qui est organisée effectivement comme un organisme, mais un organisme soumis à une structure tout à fait verticale, avec au sommet, bien sûr, la royauté de droit divin, détenant son pouvoir directement de Dieu. Et donc, ça, c'est évidemment la variante réactionnaire. Il y a, à côté de ça, bien sûr, une variante progressiste, qui est la variante que partagent les socialistes et Henri Lafontaine. Dans cette variante progressiste, se veut scientifique. C'est-à-dire que l'organe social est soumis aux lois de l'évolution darwinienne. Et donc, qui est cette évolution darwinienne est le vecteur scientifique de progrès de la société. Cette approche darwinienne mobilise donc cette science au fin d'une vision d'évolution de la société continue, j'insiste là-dessus, portée par une flèche du progrès. C'est-à-dire que cette vision oublie du texte, évacue du texte de Darwin tout ce qui est discontinu. Cette discontinuité est donc écartée au profit d'un déterminisme très dur. Henri Lafontaine, vous allez lire si vous le lisez, est un déterministe très dur, un déterminisme organiciste, progressiste, très dur. Alors ce déterminisme darwinien, Je reprends mes feuilles parce qu'il faut être très précis en la matière. Ce déterminisme darwinien admet lui aussi deux sous-variantes. Hein, dont il y avait la variante réactionnaire, la variante progressiste. Dans la variante progressiste, il y a encore deux sous-variantes. Il y a ceux qui lisent Darwin sous l'angle de la lutte pour la vie, struggle for life, soit sous l'angle de la survivance, des plus aptes, des plus capables, des plus forts. Et c'est cette lecture-là qui est adoptée par Alfred Naquet, dont j'ai parlé. Henri Lafontaine rejette cette lecture en la qualifiant de matérialiste. Et Henri Lafontaine n'est pas matérialiste. Il critique le matérialisme. Il rejette cette lecture matérialiste et il la condamne. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette lecture revient à justifier les inégalités, revient à justifier les injustices, puisque ce sont les plus aptes, les plus forts qui restent dans cette évolution qui néanmoins est une évolution déterministe et progressiste. À cette lecture-là de Darwin, avec Benoît Malon, qui en est peut-être l'auteur, celui qui va développer le plus cette lecture qui s'oppose à la lecture « La lutte pour la vie », Henri Lafontaine adhère à une lecture qui consiste à dire chez Darwin ce qui est important, c'est la coopération pour la lutte pour la vie. C'est l'association pour la lutte pour la vie. Autrement dit, c'est la coopération qu'il faut voir et non pas la compétition qu'il faut lire chez Darwin. Et cette coopération est évidemment, effectivement, dans le texte de Darwin. Et Les neurosciences actuelles donnent d'ailleurs raison à cette lecture-là, puisqu'elles démontrent que notre cerveau est fait pour la coopération. Et c'est une lecture qui est essentiellement partagée par les anarchistes et qui est une lecture qui a été très fortement développée par Kropotkin. Donc, Henri Lafontaine adhère à cet héritage-là de Darwin. Donc, le déterminisme ne conduit pas seulement à l'horizon de la transformation économique et sociale et politique agrégée dans le collectivisme, mais le darwinisme de coopération doit aboutir dans ce déterminisme progressiste à quelque chose de plus moral, c'est-à-dire doit conduire à l'altruisme dont la traduction sociale est la solidarité, tenez-vous bien, universelle entre toutes les humanités. Et cette solidarité universelle, elle va très loin parce que on postule la présence d'humanité sur d'autres planètes. Et donc, c'est une solidarité cosmique au niveau du cosmos. Donc, on va plus loin. Et donc, ces deux faits, c'est-à-dire l'affaire collectiviste et l'affaire altruiste, solidarité universelle, ces deux faits sont intimement liés dans une sorte de religion positiviste, de religion spiritualiste, universaliste. Et je dirais qu'il s'agit en réalité d'une sorte d'anthropologie, de science qui relie, c'est d'où le terme religion, des humanités, donc comme je le disais, à l'échelle du cosmos. Et donc il ne s'agit pas d'une religion qui postule un arrière-monde, une vie éternelle, des trucs pareils, hein, pas du tout. Là, Henri Lafontaine est très clair, il faut balayer ce type d'idées. Mais il s'agit vraiment d'une préfiguration d'un altruisme qui est porté par la flèche scientifique darwinienne du progrès. Et d'ailleurs, la déclaration de principe du Parti ouvrier belge de 1894, qu'on appelle la Charte de Carnion, allie à la fois l'inspiration marxiste, critique du capitalisme et préfiguratrice du collectivisme, avec l'appel au changement dans l'ordre moral. Alors, cette vision de flèche du progrès vers l'altruisme a un effet, c'est que, au fond, et Henri Lafontaine l'écrit, au fond, toute personne de bonne volonté, toute personne raisonnable devrait tout simplement adhérer à cette flèche du progrès qui de toute façon va arriver puisqu'on est dans le cadre du déterminisme et devrait de façon tout à fait consciente, bienveillante, adhérer à ce collectivisme pour éviter ce que Henri Lafontaine appelle le cataclysme révolutionnaire, puisque de toute façon, ça va venir. Et puisque le but, c'est la solidarité universelle, l'altruisme universel, pourquoi s'y opposer et donc courir le risque révolutionnaire? Alors, cette vocation de l'humanité à l'altruisme a une autre conséquence fort intéressante qui est très développée par Benoît Malon, dont on dit que c'est le socialisme moral. Alors, cette conséquence, comme le développe Benoît Malon, est de dire que si le socialisme qui doit mener vers cette société idéale veut être meilleur que le capitalisme, eh bien, il faut que, hic et nunc, dans les moyens mis en œuvre pour arriver à ce résultat du collectivisme, il faut que les moyens mis en œuvre soient déjà maintenant et tout de suite meilleurs que la société capitaliste actuelle. Autrement dit, Benoît Malon développe cette idée qui va rejaillir, et surtout notamment avec la Révolution russe, développe l'idée que la fin ne justifie jamais tous les moyens. Et au contraire, que fin et moyens sont tellement imbriqués les uns dans les autres que de mauvais moyens, des moyens qui ne recherchent pas le bien actuel, vont conduire à des mauvaises fins inexorablement. Autrement dit, fin et moyens sont intriqués et les moyens mis en œuvre sont déjà des préfigurations dynamiques de la société qu'on est en train de construire. Et ça, c'est évidemment une idée fondamentale dans la doctrine socialiste, dans une des branches de la doctrine socialiste qui va rebondir systématiquement au cours du temps. Et Van der Velde postule de même, lors du congrès du POB de 1893, il dit... Nous voulons devenir meilleurs et nous le voulons par la pratique de l'association et de la solidarité. Et le parti doit être, le POB doit être exemplaire, doit se détacher totalement de ce point de vue des partis capitalistes. Donc voilà quelques-unes de ces inspirations intellectuelles d'Henri Lafontaine qui me paraissent poser des questions doctrinales très importantes pour le mouvement socialiste, qu'il soit socialiste attaché à l'action politique ou qu'il soit anarchiste. Alors je voudrais en terminer par un point, et j'en terminerai là, et alors nous aurons du temps pour la discussion. C'est que quand vous allez lire ce petit livre de La Fontaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a un hiatus entre l'avant-collectivisme et l'après-collectivisme. Alors, l'après-collectivisme, c'est simple. Ce sont des lendemains qui chantent. L'après-collectivisme, c'est la démocratie politique, sociale, économique la plus étendue. C'est non seulement de la cogestion, mais c'est même de l'autogestion. Je vais reprendre une citation. Voilà. Henri Lafontaine dit « Le collectivisme veut émanciper complètement ses fonctionnaires ». Il parle de fonctionnaires puisqu'on est dans le cadre du collectivisme, évidemment. Ce ne sont pas tous des fonctionnaires de l'État. Il veut, et je continue la citation, le collectivisme veut qu'ils soient les administrateurs réels et directs de leur administration. Autrement dit, on est carrément dans l'autogestion. Et bien sûr, le suffrage universel est là, etc. Donc, pour l'après-collectivisme, les choses sont assez claires, et ajoute La Fontaine, dès que le collectivisme est là, immédiatement, on sort du salariat. Le salariat n'existe plus. C'est l'émancipation totale des travailleurs et l'émancipation de la relation de subordination par rapport à l'employeur. Et je vous rappelle que dans le contrat de travail actuel, il y a toujours cette relation de subordination du travailleur par rapport à l'employeur. Relation de subordination, je voudrais retrouver là aussi ce qu'en dit La Fontaine. Ouais, c'est évidemment au moment où relation de subordination qu'il qualifie, je le cite, cette suggestion terrible au chef d'industrie. Donc là, on est l'après-collectivisme, c'est effectivement l'émancipation totale. Par contre, l'avant-collectivisme, ça, c'est un peu plus compliqué. D'abord, Henri Lafontaine est très conscient de l'importance de cette question. Il dit que la question la plus importante que tout progressiste, tout socialiste doit se poser, c'est précisément la question de la transition du capitalisme au socialisme. Cela étant, Lafontaine est un homme de son temps et un bourgeois de son temps. Et il partage nombre de préjugés de la bourgeoisie par rapport aux travailleurs. Et je vais vous citer l'une ou l'autre chose. Il parle, par exemple, en étant un peu plutôt dans l'épouvante de ce qu'il appelle le cataclysme révolutionnaire, il parle de la masse grouillante et pullulante des manouvriers et des valets. On n'est pas loin de la description de Taine des sans-culottes dans la Révolution française, évidemment. Alors, il dit aussi, il parle aussi des foules frustes et ignorantes. Et il a cette phrase terrible dans son petit livre. Il écrit: le mariage est pour les classes populaires le plus souvent une simple satisfaction des instincts animaux. Donc vous voyez que ça illustre, n'est-ce pas, les préjugés de la bourgeoisie vis-à-vis des travailleurs. Et si vous lisez la description que feront Van der Velde et d'Estrées de la révolte ouvrière de 1886, vous allez être aussi assez horrifié par certaines phrases. Donc, première chose. Cela dit, dit La Fontaine, ces masses de travailleurs, ces masses ouvrières, sont néanmoins animés du désir instinctif, je cite, désir instinctif qui les entraîne vers l'organisation internationale du travail. Donc ces masses sont néanmoins dans la bonne pente de l'histoire. Mais c'est du désir instinctif. Peut-être que ces masses auraient préféré être un peu plus créditées de désir humain, de volonté consciente, bref, de moins d'instinct. Et donc, on est là devant une situation où on peut se poser, oui, mais dans ces conditions, quel est le rôle de ces travailleurs dans cette fameuse transition du capitalisme vers le collectivisme? D'autant que, manifestement, La Fontaine n'a pas envie qu'il y ait de la révolution, ça c'est clair. Alors, on est. N'est-ce pas? On soulève là une question très importante qui a été fortement développée par un auteur, Jacques Rancière, dans deux livres qui me paraissent essentiels, qui s'appellent La Mésentente et La haine de la démocratie. Et Jacques Rancière constate ceci, c'est que au cours de l'histoire, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité en tout cas, les dominants ont toujours eu du mal à reconnaître le logos des dominés. Et le logos, Aristote le définit ainsi. Le logos, c'est, dans le langage humain, ce qui permet à l'humain de discerner le juste et l'injuste, et non seulement de le discerner, mais d'en discuter, d'en débattre sur l'agora. Eh bien, Jacques Rancière remarque à juste titre que les dominants ont toujours eu du mal à reconnaître ce logos des dominés, cette capacité à entrer comme sujet politique dans la discussion sur le juste et l'injuste. Et d'ailleurs, les dominants de l'époque refusent même que les représentants de ces travailleurs aient le suffrage universel. Et il y a dans leur argument, bien sûr, cette contestation de la capacité du logos des représentants des dominés, et d'ailleurs il y aura le vote capacitaire. Donc, problème de la reconnaissance du logos des dominés. Alors, je vous disais, il y a évidemment une différence importante entre les conservateurs et les progressistes, puisque les conservateurs imputent, n'est-ce pas, la situation des travailleurs aux travailleurs eux-mêmes, la situation des victimes aux victimes elles-mêmes. Mais la victimisation peut avoir aussi des effets négatifs sur la reconnaissance du logos des victimes. Est-ce que ces victimes ne doivent pas être, au fond, représentées par des représentants attitrés qui, eux, vont parler au nom des victimes? Et on dit bien que le suffrage universel est la clé de toutes les réformes. Hein. Quand je dis la clé de toutes les réformes, c'est effectivement l'expression utilisée à l'époque. Mais au fond, qui détient cette clé, sinon les représentants? Et donc, on voit bien qu'il y a dans la victimisation un danger, il y a dans le suffrage universel une possibilité d'écran entre les victimes et leurs représentants, et en tout cas, l'intelligence collective, l'intelligence ouvrière demeure dans l'angle aveugle de cette marche du capitalisme vers le collectivisme. Et vous savez que il y a cette expression marxiste célèbre qui dit que l'œuvre d'émancipation des travailleurs sera le fait des travailleurs eux-mêmes. Eh bien, la charte de Carnion a prudemment transformé relativement la phrase, et je vais vous lire ce qu'elle dit. L'émancipation des travailleurs sera, je souligne, essentiellement l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, sage précaution. Voilà, j'ai dit, mesdames, messieurs, chers amis, et je vous invite à en débattre. Merci pour l'attention.
Merci pour cette présentation très intéressante qui montre une fois de plus que Henri Lafontaine reste très actuel. Ici, on a parlé de sa conception du socialisme via le collectivisme, mais il est aussi via son pacifisme, son féminisme et toutes les valeurs qu'il défendait en général. Je vous laisse la parole.
Je vous remercie pour votre... Elie Félix. Je vous remercie pour votre exposé brillant, très pointu, avec des références qui ne sont pas connues. Le hasard fait que j'étudie la question pour le moment et je me suis intéressé à la constitution de l'Institut des sciences sociales d'Ernest Solvay, auquel Henri Lafontaine n'était pas membre effectif, mais auquel il s'est invité dans les travaux à l'hôtel Ravenstein de 1894, année de la charte de Carnion, jusqu'en 1900, quand Ernest Solvay n'a pas été compris par les personnes auxquelles il avait fait appel pour développer ses idées de progrès social, mais qui inclut tout ce que vous avez dit. Alors, ma question était la suivante. Est-ce qu'on ne ferait pas bien d'insister sur un peu le creuset des idées développées, mais qui trouvent aussi leur origine dans la bourgeoisie la plus créatrice, la plus inventive, la plus généreuse, qui existait également au XIXe siècle et qui est notamment représentée par Ernest Solvay. Et on n'évoque jamais assez ça. Mais il est évident que les meilleures idées sont toujours dévoyées. Hein. Le collectivisme, quand il a été mis en application, ça a été une catastrophe meurtrière dès le début, avec des famines, des ruines, des destructions, des esclavages. Et les idées généreuses de Solvay ont également abouti à une voie, ont pris une voie que Solvay n'attendait certainement pas. Hein, l'école de commerce de Solvay ne poursuit pas son but. C'est, hein, voilà, enfin, voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit.
Merci bien. Et effectivement, je ne vous ai cité que quelques auteurs parce qu'il ne s'agit que d'une préface. Mais je pense que ce sont trois, quatre auteurs qui ont une influence réelle. Il y a encore Huet, Profagan, enfin bon, il y en a d'autres, bien sûr, Collins, etc., mais je n'ai pas le temps de les citer tous. Mais un type comme Scheffle, par exemple, Albert Scheffle, dont on a parlé, était particulièrement discuté, justement, avec l'Institut des sciences sociales Solvay, etc. J'aurais voulu tomber sur un de ses livres, mais j'ai malheureusement pas trouvé. Peut-être qu'il se trouve ici, d'ailleurs, mais j'en sais rien. Mais c'est effectivement, pour moi, ça a été vraiment... le 19. Vous savez, quand je fais des travaux là-dessus, c'est pas la première fois, moi je me sens un homme du 19e siècle. Non pas parce que je jette des regards éperdus vers le temps où il n'y avait pas d'intelligence artificielle, etc. Pas du tout, ça m'intéresse beaucoup l'intelligence artificielle. Mais je me sens un homme du 19e siècle pour une raison simple qu'il y a derrière votre intervention. C'est que le 19e siècle est d'une fraîcheur intellectuelle extraordinaire. Quand vous voyez tout ce qui boue dans cette marmite d'idées qui vont être, comme vous dites, dévoyées plus tard, tout ce qu'il y a sur la table, sans aucune entrave, en toute liberté, je pense qu'à l'heure actuelle, on pense avec beaucoup plus d'autocensure qu'à l'époque. À l'époque, il y a vraiment, je sens, c'est quand je lis même des types comme Alfred Naquet, etc., dont je ne partage pas nécessairement, mais il y a là une fraîcheur de débat et les auteurs ne craignent aucun moment d'exprimer leur colère dans le débat. Il y a donc comme ça quelque chose qui vit très fort. Et c'est pour ça, je vous dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette petite préface, parce que quand je me replonge là-dedans, comme j'ai aussi travaillé pour le livre de Marcel Lippmann sur le POB de 85 à 14, quand je me plonge dans ce genre de choses, je me sens vraiment très proche de ce tumulte intellectuel. Que je trouve fortement émoussé à l'heure actuelle. Voilà, merci pour...
D'autres questions ?
Bon, mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et cette marche vers le collectivisme qui est, d'après ce que vous dites et ce que je pense, qui est inéluctable. On ne sait pas quand ça arrivera. Enfin, en tout cas, j'espère que ça arrivera. Mais en tout cas, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et toutes les descriptions que l'on peut faire de comment il faut faire pour y arriver... Tout ça peut être foutu par terre parce que la marche de l'histoire, elle n'obéit pas comme ça, comme une horloge. Il arrive que le peuple, les masses, ont parfois des exigences qui dépassent celles des dirigeants, qui dépassent celles de ceux qui ont initié le mouvement. Par exemple, la Révolution française, tout au début... Quand ça a commencé à germer, qu'est-ce que c'était ? C'était une réunion d'aristocrates avec quelques éclairés de bourgeois qui ont imaginé que la France devait changer et ça a mené à un bouleversement, quelque chose qu'on peut dire un cataclysme pour la féodalité qui était encore au pouvoir. On peut voir que la révolution en Russie au moment de l'Empire qui a eu lieu. Mais si le parti bolchevique n'avait pas dit qu'on fait la révolution, elle aurait eu lieu. Elle aurait eu lieu, elle aurait... Quelle tendance elle aurait prise, mais elle aurait eu lieu. On peut voir qu'il y a eu toute une série de révolutions dans le monde qui ont été victorieuses, pour autant que la victoire est toujours, peut toujours être remise en question. Elle n'est jamais finie. Mais je vais prendre l'exemple de la Chine, du Vietnam, on peut même parler de la Russie. Vous avez dit que le collectivisme peut éclore dans une société qui est riche. Mais la révolution est arrivée dans des pays pauvres. Menée par des marxistes, par des communistes, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, on a dit que ces pays étaient communistes, mais avant de penser au communisme, avant de penser au socialisme, il fallait construire une société. Il fallait même, je vais prendre en Chine, à un moment donné, dans un coin de la Chine, il y a eu un développement capitaliste qui s'est fait, qui était comme ça là, sur le côté. Pendant qu'ailleurs, on construisait une société égalitaire. Et puis par la suite, la partie qui était comme ça sur le côté a pris le dessus et on est arrivé à un système qui n'est pas tout à fait le socialisme, ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait le capitalisme. Mais enfin, je ne vais pas refaire toute cette histoire, mais il arrive que des dirigeants lancent quelque chose qui est parfois dépassé, ou bien quand ils arrivent à ce qu'ils ont prôné, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que les masses qui ont été entraînées dans la révolution, pour finir, c'était peut-être pas tellement le socialisme qui les intéressait, c'était peut-être tout simplement la libération coloniale. Et puis à partir du moment où la prise de pouvoir est faite, eh bien, il faut partir avec des briques et des brocs et il faut construire. Enfin, voilà, je veux dire que c'est très compliqué. Et lorsque, par exemple, la grève de 60-61 que j'ai vécue, à ce moment-là, j'étais étudiant, mais j'y ai participé. On disait à cette époque, à l'académie où j'étais, que les ouvriers ne pensaient qu'à leur télévision et une voiture. Il n'y avait pas encore beaucoup de voitures chez les ouvriers et pas encore beaucoup de télévision, mais c'est ce qu'on disait. Ils étaient endormis. Il y a eu une grève terrible. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'au moment d'une grève, c'est la vitesse avec laquelle des idées sociales avancées s'instaurent dans la tête des gens. Ou bien je vais prendre un autre exemple. Bon, les gens vont souvent voir des... On leur donne souvent des bêtises à voir. Mais quand il y a une grève, il y a des groupes de théâtre qui vont dans les usines en grève. Il y a des films qui sont montrés et c'est curieux. Les ouvriers aiment bien. Voilà, je ne vais pas... Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous avez dit, c'est sûr.
D'autres questions ou commentaires ?
Moi, j'étais assez interpellée par le propos que tu as tenu sur le logos du peuple. Et il me semble que là aussi, La Fontaine, en tout cas dans le propos que tu as tenu, c'est vraiment le propos des Gilets jaunes par rapport au pouvoir, et je voulais savoir ce que tu en penses.
Mais oui, c'est le dernier exemple le plus frappant de cette négation du logos et les Gilets jaunes. D'ailleurs, moi j'ai été très frappé par le fait que la presse a développé à foison la casse, la violence, les dérives xénophobes ou antisémites, etc. Et a finalement très peu parlé, par exemple, des assemblées Qui sait combien d'assemblées il y a eu pendant cette révolte des Gilets jaunes? Il y en a eu 5. Et qu'est-ce qu'on en a appris de ces assemblées, des assemblées? Pas grand-chose. Pourtant, elles développaient des revendications, etc. etc. Et donc, le fait aussi que chez les Gilets jaunes, il n'y avait pas de porte-parole. Très intéressant parce que, effectivement, les mouvements sociaux actuels sont très méfiants par rapport aux porte-parole. Pourquoi? Parce que le porte-parole, très vite, bascule vers la vedette. Et la presse souhaite qu'il y ait des porte-parole pour justement avoir des figures à montrer. Et donc, si on prend la ZAT de Notre-Dame-des-Landes, quand un journaliste s'amène, tout le monde s'appelle Camille. Camille, qui est un prénom sans genre. Et donc, on voit combien la question du porte-parole est devenue une question centrale effectivement, des révoltes. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a dit? C'était une jacquerie. Une jacquerie pour jeter le discrédit sur le mouvement. Et donc, là, de nouveau, l'intelligence collective développée au niveau des ronds-points, etc., a été complètement passée, vraiment, pas tout à fait sous silence, mais quand même la plupart du temps sous silence. Il faut aller lire quelques auteurs pour voir ce qu'il en est. Et donc, cette affaire de la mise en doute de la qualité d'humain politiquement capable de discerner dans la société ce qu'il convient ou ne convient pas de faire est toujours mise en doute par les dominants. Chaque fois qu'il y a des dominés qui élèvent la voix. Et ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de dominants ou de beaucoup de personnes qui suivent ce raisonnement, c'est que les dominés ne sont capables en toute autonomie eux-mêmes que d'irruptions violentes dans l'espace public, sur l'agora, de vociférations, de slogans, etc. Et non pas de ce débat fondamental sur l'avenir des sociétés. Et donc, c'est effectivement, je pense, un élément très, très important.
Nous avons encore un peu de temps pour une dernière question. Bien, s'il n'y en a plus, je vous invite, comme vous avez attendu longtemps, vous avez encore droit à un petit verre. donc, on peut en poursuivre la discussion après, si vous n'avez pas encore, vous pouvez vous procurer le petit livre à la boutique. Et donc, vous pourrez aussi découvrir à la boutique les autres livres des éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Il y en aura d'autres à venir. Il y a une biographie complète d'Henri Lafontaine qui va paraître au début de l'année prochaine et une anthologie des textes pacifistes d'Henri Lafontaine prévue pour la fin de l'année. Je vous remercie.